Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. C'est encore un réel plaisir de partager ce plateau avec un juriste pour parler cette fois-ci de l'OADA. L'OADA qui est une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, un instrument de coopération et d'intégration juridique. Avec nous sur ce plateau, M. Momo Yassila. Il est d'origine guinéenne, la Guinée-Conakry. Bonsoir, M. Silla.
Bonsoir, Monsieur Camara.
C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau et de parler de cette organisation si importante qui est l'OADA. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation.
Et merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là.
Le plaisir est partagé. Avec plus de 10 ans d'expérience en tant que juriste d'affaires, vous êtes spécialisé en droit des affaires et en droit de la propriété intellectuelle. Notamment dans l'espace OADA, vous conseillez et accompagnez des entreprises publiques et privées ainsi que des institutions internationales dans leurs activités économiques et leurs projets de développement. Vous êtes aussi président de l'Institut de formation et d'expertise juridique, une initiative pour renforcer les compétences des juristes en activité et soutenir l'insertion professionnelle des diplômés en droit. Vous êtes aussi passionné par la promotion et la vulgarisation du droit des affaires et du droit OADA. Alors, l'OADA qui a été créé en 1993, M. Silla, a fêté ses 30 ans l'année dernière. Aujourd'hui, l'OADA n'est-il pas le rattrapage par la force de l'âge?
Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Bon, l'OADA, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des avancées, mais comme vous l'avez dit aussi, ça a été un moment en fait pour les acteurs en fait de l'organisation communautaire en fait de se dire de lancer le bilan à l'occasion des 30 années en fait qui s'est passé le mois d'octobre dernier.
Oui.
Il y a même eu en fait une activité à l'occasion à Kinshasa parce que c'est la RDC qui assurait la présidence de l'organisation parce que la présidence elle est tournante.
Oui.
Mais avant de parler en fait aujourd'hui du bilan, j'aimerais faire en fait brièvement en fait le rappel en fait de si vous voulez en fait de parler
brièvement oui, brièvement oui. Oui.
Et l'OADA, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, regroupe aujourd'hui 17 états. Mais qu'est-ce qui a amené en fait l'OADA? Ce qui a amené l'OADA,
17 états d'Afrique subsaharienne.
Oui, mais c'est ouvert, ce n'est pas fermé.
Oui.
Ce n'est pas fermé parce que lorsque vous regardez en fait le traité de l'OADA, c'est une organisation certes en fait qui regroupe en fait les pays d'Afrique subsaharienne, mais aujourd'hui en fait c'est au niveau des traités en fait il n'y a pas de blocage. Donc si vous regardez ce qui a amené la mise en place de l'OADA, c'est que à la fin des années 80, début années 90, l'Afrique a été confrontée à une situation un peu inédite, c'est que vous aviez des investisseurs en fait qui quittaient le continent.
Oui.
Alors cela a provoqué en fait la baisse des investissements et vous savez en fait nos pays, bon les pays de manière générale en fait sont soutenus en fait, l'économie est soutenue par le secteur privé. Donc il y a eu un sérieux problème en fait du secteur privé et les responsables à l'époque, les chefs d'État à l'époque en fait, parce que c'est la zone franc beaucoup plus qui était touchée, les pays qui ont en partant en fait le franc CFA,
oui.
Donc ils se sont posé des questions, ils se sont dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc à ce moment qu'en fait ils ont voulu poser le diagnostic et ce diagnostic ils ont mis en fait une équipe de grands juristes en fait pour faire le diagnostic, pour passer dans les pays en fait qui étaient confrontés à cette situation pour faire le diagnostic, pour poser des questions, rencontrer les investisseurs, rencontrer les autorités, la société civile, tout ça. Et lorsqu'ils ont fait ce travail de diagnostic, la conclusion était que cette situation en fait liée en fait à la fuite des investisseurs aussi bien étrangers que nationaux étaient liés à l'insécurité juridique et judiciaire.
Il y avait un vide juridique.
Il y avait un vide juridique dans certains endroits, mais surtout l'insécurité juridique, parce que on peut ne pas être confronté à un vide, on peut être avec des textes, mais des textes qui ne répondent plus aux aspirations du moment.
Oui.
Donc il y avait l'insécurité juridique.
Ils sont obsolètes, ouais.
Tout à fait, et judiciaire. Juridique pourquoi? Parce que vous avez des états où en fait... Et comme je viens de le dire, il y avait des textes qui étaient là, mais qui ne répondaient plus en fait aux aspirations de la société.
Oui.
Il y avait des états où en fait il y a eu des textes nouveaux, mais ces textes nouveaux en fait on n'a pas abrogé en fait des textes qui étaient là avant. Donc on était face à une diversité en fait législative. Insécurité judiciaire parce que le droit évolue et le droit en fait la finalité c'est au niveau de la justice, mais les magistrats n'étaient pas assez outillés au niveau de certains outils nouveaux.
Oui.
Par exemple à l'époque si vous donnez par exemple pour reprendre l'exemple en fait des juristes en fait de l'époque qui avaient participé à ce diagnostic là, disaient voilà, si vous donnez par exemple un dossier de droit maritime à un magistrat ou bien de droit en fait, un droit maritime à un magistrat en fait qui n'a jamais fait ces compétences-là, donc il va se noyer.
Oui.
Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'ils ont essayé de mettre en place une organisation. Alors cette organisation, c'est en ce moment en fait l'OADA a pris forme. Et si vous voyez en fait les objectifs de l'OADA, c'est pour répondre en fait à ces manquements-là, l'insécurité juridique et judiciaire. C'est pourquoi les objectifs de l'OADA, c'est quoi? C'est la mise en place d'un système juridique simple, moderne et adapté à la situation économique des pays africains.
Oui.
Et deuxièmement, promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des contentieux, parce que vous savez que en fait la justice, même si elle est gratuite, mais aujourd'hui au niveau des États, la justice étatique, elle est lente.
Oui.
Et ça ne peut pas, ce n'est pas forcément compatible au calendrier des affaires.
Mmh.
Donc le troisième élément, la troisième dimension en fait de l'OADA, c'est de c'est de la formation.
D'accord.
C'est la formation et donc former en fait les acteurs du droit.
Oui.
Donc c'est pourquoi dans ce sens en fait vous avez vu que voilà tout ce qui a été.
D'accord. Et comment est constituée les instances de l'OADA, qui sont ceux qui siègent au sein de l'OADA et comment se passent ces juridictions?
Bon, aujourd'hui, pour atteindre ces objectifs, l'OADA a mis en place en fait un certain nombre d'organisations. À la création, il y en avait 4, par le biais en fait de la révision en fait du traité en 2008 au niveau de Québec,
oui.
il y a une cinquième institution. Donc il y a 5 institutions. La cinquième institution qui a été créée en 2008, c'est la conférence des chefs d'État. Donc avant ça, il y avait la Cour commune des juges d'arbitrage, qui est l'institution en fait qui statue sur tout, sur les recours formulés contre les décisions rendues en second degré au niveau des États.
Oui.
Et vous avez le Conseil des ministres,
mm-hmm.
qui est l'organe législatif, donc qui statue, qui adopte en fait les textes qui sont applicables dans l'espace OADA qu'on appelle acte uniforme.
Mm-hmm.
Vous avez l'école régionale supérieure de la magistrature,
oui.
qui est basée en fait à Porto-Novo au Bénin, et il y a une instance assez importante qui est centrale, qui joue le rôle administratif, mm-hmm. qui est le secrétaire permanent, qui est basé à Yaoundé.
À Yaoundé. Voilà. D'accord. Pour autant, est-ce que cette organisation garantit la sécurisation des affaires?
Aujourd'hui, on peut dire oui, même si en fait je peux revenir en fait ce que vous avez dit au départ, on peut dire que oui, parce que si vous regardez aujourd'hui le rapport d'un business en fait depuis plusieurs années, vous verrez que les pays qui ont amélioré en fait les points en fait au niveau d'un business, la plupart de ces pays-là aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'Afrique, sont en fait dans l'espace OADA. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Bénin. Il y a des instruments juridiques, parce que parfois on peut se plaindre ou bien on peut reprocher un peu en fait le fait que ce soit lent, mais parfois les textes sont là, mais il faut qu'au niveau des États qu'il y ait des initiatives. Je vous donne un exemple en ce qui concerne le texte, en fait, le droit commercial,
oui.
l'acte uniforme sur le droit commercial général,
mmh.
où il y a un instrument en fait assez important dedans, qui est le statut de l'entrepreneur.
Oui.
Alors le statut de l'entrepreneur, c'est prévu en fait par l'acte uniforme, mais au niveau des États, au niveau de nos États africains en fait, qui sont membres de l'OADA,
mmh.
on n'utilise pas en fait ce levier-là, parce que c'est un système qui a été prévu. Si vous regardez le dispositif, ça a été mis en place.
Mm-hmm.
Vous savez, dans nos pays, il y a beaucoup, le système informel est
assez fort. Exactement, j'allais venir à cette question.
Donc,
oui.
donc l'entrepreneur a été mis en place
mm-hmm.
pour tirer les gens de l'informel vers le formel.
Oui, d'accord. Mais est-ce que les politiques suivent au niveau national,
au
sein des États?
Au niveau de les pays qui ont expérimenté ça aujourd'hui, je ne connais pas tous les pays, mais je sais qu'au niveau du Bénin,
oui.
je sais qu'ils sont très avancés. Ça a permis vraiment de pouvoir résoudre en fait le problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat.
Mm-hmm.
On parle de l'entrepreneuriat, mais le problème que les entrepreneurs ont aujourd'hui en Afrique, c'est un problème d'information.
D'informel, oui.
Parfois, on dit, moi j'aime trop en fait la définition du droit selon lequel le droit, c'est l'information en circulation.
Oui.
Parce que ce n'est pas à l'information de venir vers nous. Si je sais que je suis employé quelque part, donc
oui.
je suis soumis au droit du travail, c'est à moi de savoir quels sont mes droits.
Absolument.
Mais ce n'est pas ce que le législateur peut faire pour moi,
oui.
c'est de prévoir mes droits.
Oui, mais si le législateur aussi n'informe pas sur les droits des parties prenantes aussi, ça peut coincer quelque part.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est le travail que nous faisons au niveau de l'UNIDA, l'Association pour l'unification du droit en Afrique. Nous, on fait la promotion et la vulgarisation du droit au OADA.
D'accord.
Mais ça doit être au niveau de tous les textes juridiques dans nos États.
C'est absolument.
Il faudrait que,
je suis d'accord.
Que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des étudiants,
mm-hmm.
il faudrait qu'il y ait des initiatives, en fait, de manière à promouvoir le droit.
Mm-hmm.
De manière à vulgariser le droit,
oui.
pour que vraiment l'information arrive au niveau du citoyen, ou bien pour que qu'il y ait même, si vous voulez, en fait, ce réflexe en fait au niveau des citoyens. Je vous donne un exemple. Si vous avez des situations en Afrique où en fait un policier peut en fait convoquer quelqu'un dans son bureau, un policier en fait même routier ou bien en fait même s'il est OPJ, il peut en fait convoquer quelqu'un en fait pour une affaire de dette, qui est une affaire civile.
Oui.
Parce que le citoyen ne connaît pas ses droits.
C'est ça.
Mais s'il connaît ses droits, il va dire non, monsieur, vous n'avez pas en fait le droit de me convoquer, de m'interpeller par rapport à une situation comme ça, parce que c'est une
affaire commerciale. Oui. Oui. Alors, restons dans cette question du secteur informel, qui est importante dans cette région, puisque la plupart des activités commerciales sont quand même informelles. Qu'est-ce que nos États, ou alors qu'est-ce qu'une organisation telle que l'OADA doit faire pour enrôler les citoyens de cette région pour qu'ils puissent comprendre que l'OADA existe et puisqu'ils puissent aussi comprendre les enjeux et s'approprier réellement de cette organisation si importante.
Ok, merci beaucoup. Mais comme je le dis encore, l'OADA, il faut savoir que c'est une institution. Mm-hmm. Moi, je dis en fait, il ne faut pas s'éloigner en fait des objectifs de départ. L'institution, elle est là, mais c'est au niveau des États de prendre les préoccupations, c'est-à-dire de remonter les informations. Aujourd'hui, faire le bilan, voilà, aujourd'hui, on prend texte par texte.
Oui.
On dit, ou bien même disposition par disposition pour dire, voilà, ça avance, ça n'avance pas. Parce que l'OADA, quand même, c'est une organisation assez... C'est aujourd'hui l'une des organisations africaines qui fonctionne le mieux. Je vous donne un exemple.
Oui.
Si vous prenez la Cour commune de justice d'arbitrage,
oui,
vous verrez que cette cour, en fait, au niveau de l'OADA, il y a quelque chose qui se fait, qui ne se fait dans aucune organisation au monde. C'est le fait que les pays ont abandonné leur souveraineté judiciaire. C'est-à-dire que je suis en Guinée. Il y a une affaire entre nous deux, en fait, sur le plan commercial.
Oui.
Premier instance, en fait, il y a un problème.
Vous n'êtes pas
content.
Oui.
On va au niveau de la cour d'appel. S'il y a pas encore, s'il y a encore de mécontent, si on arrive au niveau de la cour commune de sujet d'arbitrage, qui est l'instance en fait suprême, comme au niveau de nos États, cassation ou un cours suprême, c'est que dans la fonction principale ordinaire en fait d'une cour suprême, c'est de statuer sur le droit. C'est-à-dire vous regardez si ce n'est pas bien fait, vous ramenez en fait au niveau de la cour d'appel pour statuer. Mais au niveau de la cour communautaire d'arbitrage, c'est que non seulement elle peut casser, mais elle a le pouvoir d'évocation, c'est qu'elle peut prendre la décision, elle traite. Ça ne se fait dans aucune organisation au monde.
C'est comme la cour de justice de la CEDEAO.
Tout à fait, mais ça ne se fait. Ce qui se fait, c'est que au niveau en fait, comme j'ai dit en fait là, une juridiction de cassation normalement n'a pas vocation à connaître une affaire.
Oui.
Mais au niveau de l'OADA, les pays ont abandonné, en tout cas au niveau de la CCJA, les pays en matière de droit des affaires, les pays ont abandonné leur souveraineté judiciaire. Ce qui est très très important, c'est pour éviter vraiment qu'il y ait une diversité en fait, que dans une même affaire similaire en Guinée et au Mali en fait, qu'on ait en fait des décisions qui ne vont pas dans le même sens.
Dans le même sens.
Donc c'est pour revenir à votre question, je dirais que voilà, c'est vrai, l'institution est là, il y a des choses qui ne vont pas à la hauteur en fait de ce que nous souhaitons, mais il faudrait que au niveau de nos États qu'il y ait vraiment des volontés, au niveau de la volonté politique, mais même au niveau de la société civile, pour voir dans n'importe quel secteur, qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir faire remonter. Parce que l'OADA, elle est là pour ça. Si les informations sont remontées, les décideurs au niveau du secrétariat permanent peuvent voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Oui, mais est-ce que ces décisions ou alors ces délibérations de l'OADA sont souvent exécutées au sein de ces pays-là? Parce que je n'ai pas suivi l'OADA, mais au sein de la CEDEAO, quand même, il y a ce blocage. La Cour de justice de la CEDEAO effectue souvent des délibérations qui n'intéressent pas ou alors qui n'arrangent pas trop les pouvoirs en place et ils sont ignorés.
Ça, vous posez une question assez intéressante. Justement, au niveau de l'OADA, en fait, il n'y a pas cela. D'abord, au niveau de l'application, on commence par l'application des textes en fait, qui sont votés. Je ne parle même pas d'abord du volet judiciaire après une décision de justice. Et au niveau législatif, lorsque un acte uniforme est adopté au niveau par le Conseil des ministres, la décision, elle s'applique de manière systématique. Ce n'est pas comme ce qu'on voit en Europe ici où en fait il faut, lorsqu'on fait une décision au niveau de l'Union européenne, il faut faire ce qu'on appelle la transposition au niveau de la France pour que ça puisse s'appliquer.
Oui.
Au niveau de l'OADA, quand un acte uniforme est pris,
ça
s'applique de manière automatique dans tous les États. Ça c'est le premier point. Au niveau judiciaire, lorsqu'il y a une décision, par exemple au niveau de la, comme je le disais, au niveau de la CCJA, pour l'application dans un autre État, vous n'avez pas besoin de ce qu'on appelle l'exéquature.
D'accord.
Vous n'avez pas besoin
d'exécuter.
Non, vous n'avez pas besoin.
C'est automatique.
C'est automatique. Donc, c'est qui
c'est
fait
intéressant.
Comme je le dis, il y a quand même des avancées, mais comme je dis, il peut y avoir des soucis ailleurs, mais quand même, nous avons des acquis qui sont très très importants et qu'il faut en fait valoriser.
Ça, c'est important. Alors, j'aimerais bien qu'on parle du numérique. l'évolution du monde. Aujourd'hui, est-ce que le numérique est pris en compte au sein de l'OADA, puisque les nouvelles technologies n'ont pas de frontières aujourd'hui. Leur magie inquiète les juristes et il y a beaucoup de vides juridiques et beaucoup de soucis dans ce sens. Est-ce que l'OADA a pris en compte l'évolution du numérique qui aujourd'hui constitue beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients sur le plan du droit?
Bon, l'OADA évolue, l'OADA se met à jour en fonction vraiment de l'évolution, vous parlez du numérique, mais je vais vous donner en fait quelques exemples. Il y a, si je prends par exemple l'acte uniforme, je préfère vous donner des exemples de manière concrète. Si vous prenez l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, qui a été révisé en 2014, au niveau du conseil d'administration, lorsque les conseils d'administration sont unis. Avant, en fait, il y avait des difficultés en fait, pour les personnes en fait, de participer au conseil d'administration lorsqu'ils ne sont pas sur place.
Oui.
Donc, l'acte uniforme par le biais de la révision a permis en fait, aux personnes en fait, qui souhaitent en fait, au niveau du conseil d'administration, au niveau des sociétés, de prévoir la possibilité de participer au conseil d'administration par visioconférence.
D'accord.
Bon, après, il y a des conditions qui sont posées. Il faudrait que cette possibilité soit prévue par les statuts de la société, mais c'est quand même une avancée. Il y a un nouveau acte uniforme en fait qui vient d'être révisé, l'acte uniforme en fait sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution le 17 octobre 2023. Ça parle en fait des signatures électroniques.
Aujourd'hui,
ce sont des choses en fait quand même qui sont là. Bon, ce sont quelques exemples, mais je préfère en fait être factuel. C'est pour vous dire que en fait l'OADA en fait avance et c'est en fonction effectivement de ces contraintes là que les responsables, en fait, les institutions essaient de mettre à jour au fur et à mesure les textes.
Au fur et à mesure. Donc, nous en étions à la question du numérique. D'un pays à l'autre, les échanges commerciaux sont devenus aujourd'hui monnaie courante sur Internet, les achats, les échanges, entre autres. Est-ce que l'OADA peut juger dans ce genre de conflit, s'il y a un conflit qui naît à partir d'échanges commerciaux effectués par le numérique, sur Internet, je veux dire?
Oui, aujourd'hui, comme j'ai dit, l'OADA, aujourd'hui, comme on l'a dit au départ, c'est le droit des affaires, de manière générale. Donc, même si en fait, il y a des handicaps au niveau législatif, ce sont des questions qui sont prises en charge en fait, par les différents actes uniformes de l'OADA. Maintenant, il faut être courageux pour reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas en place, mais l'OADA, en fait, et les institutions sont en train de voir progressivement pour mettre les choses à jour. Si vous parlez de numérique, il y a les questions en fait de RSE aujourd'hui qui se posent en fait au niveau de l'OADA où en fait il y a des partisans, il y a des personnes qui estiment qu'aujourd'hui il faut carrément prévoir en fait il faut aller sur un texte en fait de RSE au niveau de l'espace OADA.
Oui.
Pour responsabiliser encore beaucoup plus davantage en fait les entreprises parce que nous voyons qu'en fait il y a des questions qui ne sont pas suffisamment en fait prises en compte au niveau de nos États qui peuvent être réglées en fait par ces sujets-là.
D'accord. Alors nous avons beaucoup entendu aussi parler des actes uniformes. En quoi ça consiste exactement?
L'acte uniforme en quelque sorte en fait ce sont les textes en fait qui sont adoptés. C'est comme si on dit en fait le code de commerce ici en France. Donc vous avez les actes uniformes en fait qui régissent en fait l'environnement des affaires de l'OADA. Vous avez l'acte uniforme sur le droit commercial, vous avez l'acte uniforme sur le droit des sociétés, vous avez l'acte uniforme sur le transport des marchandises par route, vous avez l'acte uniforme sur l'arbitrage, la médiation, ainsi de suite. Donc vous en avez sur la comptabilité et l'information financière. Donc l'acte uniforme en quelque sorte c'est dans ça en fait dans différents domaines. Et on prévoit des dispositions pour réglementer en fait les relations dans l'espace OADA.
Dans l'espace. Au sein de l'espace CEDEA ou alors d'autres organisations sous-régionales, nous savons que la libre circulation des personnes et des biens est quand même, entre guillemets, souvent mise en exergue. Mais l'exécution de cet adage n'est vraiment pas concrète sur le terrain. Au sein des frontières, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tracasseries. Est-ce que l'OADA peut être arbitre ou juge dans de telles situations conflictuelles?
Bon, aujourd'hui, dans ces états-là, c'est vrai que en fait, la libre circulation en fait, des personnes et de leurs biens qui est sur le plan politique et économique, l'OADA, c'est un instrument en fait, d'intégration juridique. C'est-à-dire que c'est un instrument juridique qui est mis à la disposition des États pour pouvoir améliorer en fait la situation économique. C'est le droit au service de l'économie.
Oui.
Donc, toutes ces questions-là que vous dites, c'est vrai, en fait, il peut y avoir parfois des soucis au niveau des pays, mais qui sont vraiment, parfois, qui sont motivés parfois par des considérations en fait, politiques. Mais au niveau de l'OADA aujourd'hui, à ma connaissance, ce sont vraiment des situations qui sont marginales. Je ne parle pas d'autres organisations sous-régionales, comme vous dites, parce qu'au niveau des organisations sous-régionales, comme vous l'avez signalé, nous avons des acquis en fait, sur le plan théorique dans les textes, mais qui ont du mal en fait, à recevoir l'application d'un point de vue pratique. Mais au niveau de l'OADA aujourd'hui, ça quand même en fait ce sont des acquis que nous avons.
Comment que vous
le seul souci est c'est ce sur quoi en fait vous êtes revenu assez longtemps, c'est que c'est les initiatives au niveau interne. C'est que les juristes et les acteurs de manière générale, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit en fait les entrepreneurs,
oui,
et la société civile, les autorités doivent comprendre que le droit il est fait pour la société et que ce droit doit progressivement se mettre à jour pour répondre aux aspirations. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important en fait d'identifier et de prévoir, mettre en place les mécanismes d'accompagnement pour que les choses soient actualisées.
Absolument. Alors, dans un tel contexte d'insécurité, surtout dans le Sahel où nous sommes, la déclaration de certains pays selon laquelle ils ne sont plus membres de certaines organisations régionales, est-ce que vous pensez que ça peut bloquer l'OADA ou alors ça peut empêcher l'OADA de faire son travail correctement? Je pense aux pays membres de l'AES, par exemple, qui ne se reconnaissent plus dans certaines organisations régionales.
Oui, ce que vous dites, c'est vrai que c'est un problème qui est à l'origine, qui a une origine politique, parce que ces pays-là sont des pays qui sont dans la CEDEAO qui décident aujourd'hui en fait de quitter. Mais là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui tous ces pays-là d'abord aujourd'hui sont membres de l'OADA.
C'est ça.
Et ça peut créer un sérieux problème, pas seulement au niveau de la CEDEAO, mais même au niveau de l'OADA.
Oui.
Parce que bon, au niveau de la CEDEAO, on peut dire tout en fait à l'origine, contrairement à d'autres organisations sous-régionales, il faut reconnaître quand même qu'au niveau de la CEDEAO, il y a quand même un acquis important en fait pour les pays membres de la CEDEAO. Ce n'est pas comme dans certaines organisations sous-régionales où en fait les pays sont encore et les citoyens encore prennent des visas en fait pour aller en fait dans des pays qui sont membres en fait d'une même organisation sous-régionale.
Oui.
Aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, ce que nous avons, moi par exemple, en tant que Guinéen, je peux aller au Sénégal,
oui,
au Mali, en Côte d'Ivoire, avec une simple carte d'identité,
oui,
sans visa, alors que vous avez d'autres organisations similaires où en fait les citoyens prennent des visas. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que ce que vous dites, c'est vraiment une vérité crue et que sur lesquelles peut-être nous n'avons pas les pouvoirs à partir de ce plateau pour résoudre ces problèmes.
Oui.
C'est-à-dire que ce sont des choses.
Mais on peut quand même tirer la sonnette d'alarme, oui.
Oui, qui peut freiner,
oui,
et qui peut freiner beaucoup de choses. Donc, même au niveau de l'OADA, l'OADA, c'est le droit des affaires.
Oui.
C'est le droit des affaires. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui permet aux hommes d'affaires de cet espace-là,
oui,
de faciliter, d'améliorer, en fait, le climat des affaires, mais de faciliter aussi les transactions. Donc, aujourd'hui, si un pays, en fait, qui est dans l'espace OADA, qui se retrouve, en fait, dehors, indépendamment de la volonté des hommes d'affaires qui n'ont pas choisi cela, il est clair que ça va avoir des répercussions en fait au niveau même de la situation économique du pays.
Alors quand on parle du droit des affaires, nous avons l'impression que ça ne concerne qu'une certaine élite et que la population de manière générale ne s'y intéresse pas trop ou ne s'y connaisse pas trop. Est-ce que vous pensez que ça devrait réellement intéresser la masse?
Le droit de manière générale doit intéresser la masse parce que comme je l'ai dit, le droit c'est une affaire de tout le monde.
Oui.
Le droit, c'est un instrument régulateur qui régule en fait toutes les activités de la vie humaine. C'est vrai que quand on parle de l'OADA, c'est le droit des affaires, mais c'est le droit de manière générale. Donc, le droit ne doit pas être considéré comme en fait quelque chose en fait qui appartient à l'élite ou bien quelque chose qui appartient à un intellectuel ou bien seulement une affaire de juriste. Le droit c'est une affaire de tout le monde parce que le droit ne regarde pas l'âge et votre origine en fait pour vous réguler lorsque vous vous trouvez en fait dans son champ d'application.
Oui.
Donc aujourd'hui aussi bien les entrepreneurs qui ont des connaissances en fait dans les domaines dans lesquels en fait ils veulent évoluer ou bien même en fait les personnes qui sont dans l'informel,
oui,
doivent vraiment et doivent vraiment en fait se familiariser avec les différents instruments juridiques en fait dans le droit des affaires. Donc ce n'est pas seulement une affaire en fait d'intellectuel en fait ou de juriste. Et chacun doit vraiment venir en fait se renseigner, s'informer et pour pouvoir se familiariser avec cet instrument juridique.
Oui. Est-ce que dans les évaluations de l'OADA, vous vous êtes rendu compte de certains conflits qui ont été réglés ou jugés par l'OADA, que ce soit au port de Dakar ou au port de Conakry ou Abidjan ou Cotonou, qui émanent vraiment d'un différent entre affairistes ou alors entre ces hommes d'affaires et des démembrements de l'État? Je vous parlais des ports ou de l'aéroport ou ailleurs.
Oui, il y a des sujets. Après, bon, je n'ai pas des sujets spécifiquement, mais je peux vous donner en fait quand même des illustrations où en fait pour vous dire que l'OADA en fait au niveau de, il y a quand même un minimum en fait de transparence et aussi en fait de traitement égalitaire en fait au niveau des dossiers. Vous avez des dossiers en fait au niveau de l'OADA où en fait les États ont perdu contre les privés dans leur État. Donc ça veut dire déjà que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait dans nos États. Donc vous avez des situations où les hommes d'affaires ont eu des contentieux avec l'État, pas d'autres hommes d'affaires, mais avec l'État, soit avec une structure, une société publique appartenant à l'État, ou bien même avec l'État même, où en fait les dossiers ont été traités et ces hommes d'affaires ou bien en fait ces privés ont gagné en fait ces procès-là au niveau en fait de la CCJ. Donc c'est pour vous dire que le problème que nous avons, c'est ce que vous effleurez, c'est que parfois c'est l'information ou bien ce qu'il faut aussi dire au niveau de nos États, c'est que les entrepreneurs, quel que soit leur niveau dans les affaires, ils doivent accepter et doivent avoir la culture de se faire accompagner.
Oui.
Parce que le droit est une discipline technique. Donc ce sont des spécialistes en fait qui connaissent, qui peuvent vous accompagner. Le contrat, c'est un instrument en fait de gestion des risques. Le contrat, c'est un instrument de défense des intérêts. Mais vous ne pouvez pas défendre vos intérêts si vous ne connaissez pas en fait. Si vous ne connaissez pas en fait d'abord les risques qui sont associés en fait à l'environnement dans lequel en fait vous évoluez.
Oui.
Donc ça aussi c'est un autre problème que nous constatons. Et aujourd'hui moi ce que je constate dans le cadre de mon travail, je pense que c'est l'un des soucis majeurs aujourd'hui dans nos États.
Dans nos États.
Les entrepreneurs pensent que les montants en fait qu'ils donnent en fait au conseil, que c'est de l'argent qu'ils jettent à la fin.
Oui, c'est vrai. C'est un bon accompagnement. Et c'est comme de l'assurance. Hein.
Tout à fait.
Oui. Un grand commerçant m'a dit que les policiers congolais ont jeté ses affaires, une marchandise de plusieurs millions, hein, sur le fleuve Congo, alors qu'il s'apprêtait à faire traverser sa marchandise. Quelle est la voie que ce grand commerçant devrait suivre pour entrer dans ses droits, soit au sein de l'OADA ou alors dans une autre organisation sous-régionale?
Bon, après, je ne sais pas en fait c'est quoi l'origine, parce que là on est en fait au niveau des faits en fait, et il se retrouve en fait dans cette situation. Je ne sais pas quelle était en fait à l'origine en fait de ce souci, soit ceux qui se retrouvent dans cette situation. Mais je vous dis encore une fois, au niveau de nos États, les systèmes peuvent être l'application peut avoir des problèmes, mais il y a toujours en fait des mécanismes en fait pour nous, que ce soit au niveau communautaire ou bien au niveau national, pour permettre en fait à un citoyen, quelle que soit en fait sa situation, que ce soit en fait un homme d'affaires ou bien en fait un citoyen ordinaire, de pouvoir en fait rentrer dans ses droits
dans ses droits. Oui. Très bien. Alors qu'allez-vous conseiller à un homme d'affaires, un commerçant de la région ou des pays membres de l'OADA? Qu'est-ce qu'il doit faire au préalable avant de s'engager, ou alors même s'il est dans ses activités qui concernent le commerce ou des transactions?
C'est ce qu'on a toujours dans le cadre de cette émission, c'est de dire que il faudrait qu'il s'informe. Un homme d'affaires, d'abord, l'investissement est un risque, parce que vous investissez de l'argent. Donc, s'il y a d'autres risques supplémentaires en fait qui viennent s'ajouter, ça veut dire qu'en fait vous ne savez pas ce que vous faites avec votre argent. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez investir, c'est important de savoir la réglementation. La réglementation au niveau communautaire, la réglementation au niveau national. Parce que ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de créer une société, par exemple, que vous n'allez pas vous intéresser à l'activité. Vous pouvez avoir le droit de créer une société pour exercer une activité, mais il faut d'abord vous renseigner. Est-ce que l'activité, d'abord, n'est même pas soumise à une autorisation?
Oui.
Je vous donne un exemple. Vous voulez, par exemple, faire le transit dans un pays. L'activité de transit, en fait, ça peut être... une activité qui est soumise à une autorisation qui n'a rien à voir avec la forme juridique de la société. Donc, renseignez-vous préalablement quelles sont les conditions pour voir est-ce que vous pour ne pas créer une société et puis venir maintenant, vous êtes bloqué en fait au niveau de l'autorisation. Donc, il y a des activités comme ça dans nos pays qui sont réglementées. Certaines sont interdites, d'autres sont soumises à une autorisation.
Oui.
C'est le cas des institutions d'enseignement. C'est le cas en fait de certaines activités comme les loteries.
Oui.
Donc, ou bien en fait la réglementation en fait sur la téléphonie.
Oui.
Donc toutes ces activités de ce type et même certaines activités aussi qui ne sont pas gérées même par les multinationales mais au niveau national, mais c'est important de voir quelle est la réglementation et quels sont vos droits. Parfois il y a des droits comme je dis encore mais qui sont méconnus. Si vous regardez même au niveau fiscal, vous allez voir qu'il y a des avantages fiscaux qui sont accordés aux entreprises en fait qui viennent de commencer, mais les gens ne savent pas. Oui. Les gens ne savent pas. Donc, si vous ne savez pas, moi j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'un droit que vous ignorez.
Absolument, absolument. Alors, l'échange est très riche, hein. C'est très enrichissant. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions de revenir sur l'OADA ou alors d'autres organisations régionales. Monsieur Sylla, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Quel est votre dernier mot ou alors quel est le dernier conseil que vous souhaitez donner à nos amis téléspectateurs qui nous suivent, surtout les hommes d'affaires ou alors les grands commerçants?
D'abord, mon dernier mot, c'est de vous dire merci et je suis très impressionné par ce que vous faites ici, en fait, dans le cadre de cette chaîne.
Merci.
Et vous faites un excellent boulot et je pense que vous devez être encouragé. Et puis voilà, que ce soit par nous, en fait, qui intervenons ici, mais aussi même au niveau des structures aussi. Je pense que ce sont des émissions qui doivent être sponsorisées pour permettre en fait à un large public en fait d'avoir de l'information. Parce que si on n'a pas l'information, rien ne peut être. Donc je n'ai pas d'autre chose que de vous dire merci, mais aussi de dire que si les hommes d'affaires, les entrepreneurs en fait, ceux qui viennent de commencer. Et, ou bien en fait qui ont commencé et qui ont de l'expérience
ou même la diaspora hein. La plupart d'entre eux souhaitent aller investir au pays mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre, il y a tout ça.
Voilà, la diaspora c'est de chercher l'information.
Absolument.
Chercher en fait ceux qui peuvent avoir distance.
Oui.
Parce qu'il y a des informations aujourd'hui avec la technologie, il y a des informations qu'on peut avoir sur internet. Il y a d'autres en fait il faut se déplacer.
Oui.
Mais c'est toujours en fait c'est toujours vraiment aller vers la bonne information, aller voir en fait quelle est la structure qui est identifiée, en fait les structures en fait où vous pouvez avoir les bonnes informations. Et au niveau de la collaboration, voir comment vous collaborez. Vous avez beaucoup de personnes au niveau de la diaspora en fait qui est souvent en fait qui créent des structures avec des personnes au pays ou bien même ici avec lesquelles elles n'ont pas les mêmes visions.
Oui.
Parce que souvent en fait vous créez en fait une entreprise, vous voulez aller avec quelqu'un. Vous n'identifiez pas bien votre partenaire, peut-être vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, vous n'êtes pas les mêmes contraintes. Donc souvent, ce n'est pas seulement même au niveau de l'activité, c'est même au niveau vraiment relationnel et d'associé où les problèmes se créent.
Absolument.
Les conflits sociaux, parfois, en fait... sont préparés dès la base de la création de la société.
Alors, merci beaucoup, M. Sylla. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé en droit des affaires. C'est un plaisir d'échanger sur l'OADA, qui est une organisation très, très, très importante, malgré qu'il est un peu méconnu du grand public. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne Soninke, à Mamadou So et à Babadem, qui a assuré la réalisation et l'organisation de ce plateau. Merci et nous vous donnons rendez-vous un autre jour pour un autre plateau et un autre thème. À très bientôt.